France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et d'abord cette décision inédite en Israël. 2 mois après les législatives, le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas réussi à trouver un gouvernement de coalition, à trouver un accord pour effectuer son 5e mandat. Les députés ont donc, comme cela est prévu, dissous le Parlement, c'est-à-dire la Knesset. Il y aura donc de nouvelles élections en septembre prochain. La Commission européenne demande officiellement à l'Italie de s'expliquer sur la détérioration de ses finances publiques. Une démarche qui pourrait aboutir dès la semaine prochaine à l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre Rome. L'envoi de cette lettre de demande d'explication est prévu par les règles communautaires lorsque la dette publique d'un pays de l'Union dépasse le seuil de 60% du PIB et que l'exécutif de ce pays ne la réduit pas. Le vice-président du Conseil italien Matteo Salvini a déjà annoncé que son gouvernement n'augmenterait jamais les prélèvements obligatoires. Boris Johnson devant un tribunal pour mensonge, le candidat à la succession de Theresa May en Grande-Bretagne à la tête du gouvernement. Ce candidat, Boris Johnson, va devoir répondre aujourd'hui devant la justice d'accusations de mensonges lors de la campagne et après le référendum de juin 2016 sur le Brexit. Les plaignants reprochent à l'ancien ministre et à l'ancien maire un manquement aux exigences d'une charge publique. Ils l'accusent en fait d'avoir menti en affirmant que l'appartenance à l'Union européenne coûtait chaque semaine 350 millions de livres sterling à la Grande-Bretagne. En bref, encore ce matin, le principal suspect de l'explosion qui a fait 13 blessés vendredi à Lyon. Le suspect est passé aux aveux hier. Cet étudiant algérien de 24 ans a commencé à parler dans les locaux de la sous-direction antiterroriste au nord de Paris. Il n'explique pour le moment pas les raisons de son geste, mais il reconnaît avoir confectionné et déposé le colis piégé. Il affirme également avoir agi seul alors que 3 de ses proches sont toujours en garde à vue. Notez enfin que la première journée des épreuves de baccalauréat le 17 juin prochain pourrait être perturbée par une grève des professeurs qui surveillent les examens. Plusieurs syndicats d'enseignants appellent à la mobilisation. Ils dénoncent le projet de loi pour une école de la confiance. Ils demandent également une revalorisation des salaires dans le secondaire.
France Culture présente les 24e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Festival majeur du 9e art en France, les rendez-vous occuperont la halle Fraissinet, 5000 m² dédiée aux auteurs, à leurs univers et leur public. Parmi les 80 auteurs invités, retrouvez notamment Enrico Marini, François Schuiten, Marguerite Abouet, Léa Mazet et Thébault. Les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, les 1er et 2 juin et tous les mois de juin pour des expositions. Un partenariat France Culture.
Et pour bien commencer ce jeudi 30 mai, nous retrouvons Toufik Hakem, il est 6h03 sur France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Comme tous les jeudis, le réveil culturel se fait en musique. Aujourd'hui, l'émission est préparée avec Corinne Amar et Sophie-Catherine Gallet, à la technique Julien Douminc, et c'est une réalisation de Vincent Abouchard. Et notre invité aujourd'hui est un chanteur engagé, comme on ne le dit plus de nos jours, engagé sur de nombreux fronts, tels que la lutte contre la corruption, la lutte pour la sauvegarde et le respect de la nature, la lutte contre le nouvel ordre économique mondial, et les combats progressistes qu'il mène se font toujours à partir de l'Afrique, son continent, et toujours sur une rythmique reggae. Mais sa musique accueille toutes les bonnes vibrations du monde. Le chanteur Tiken Jafakoli sort un nouvel album, Le Monde est chaud, c'est le titre de l'album. Un album comme un ultime signal d'alerte. Tiken Jafakoli est notre invité ce matin.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Toutes les frontières, des migrants affrétés par des trafiquants, des Africains qui triment pour des trafiquants, des frégates qui affrètent le sang des Africains qui se tuent tant pour 3 fois rien, des Africains sacrifiés pour des biens verts. Non, non, non.
pompe à fric qui pollue nos rivières. La France, Afrique et son CFA, de l'argent sale dans des sales draps. La corruption dans les ministères, valise des pieds pour les mercenaires. Enfants, soldats, la main bandoulière, le peuple est toujours dans la misère. Des Africains qui foutent sur le dos des Africains. Babylone qui pille les ressources minières. Des films qui volent le sang des notaires. Des présidents qui agissent comme des mercenaires. Des fils de présidents qui veulent succéder à leur père. Ils sont prêts à tout même à faire la guerre.
Bonjour Tiken Jafakoli.
Bonjour.
C'est une chanson inventaire de tout ce qui se passe en Afrique.
Effectivement, ouais.
Et la liste pourrait être très très longue.
Oui, elle pourrait être très très longue. Je pense qu'on peut, citer encore, hein, parce que ce continent est tellement victime de beaucoup d'injustices.
Et vous restez très fidèle, toujours le non.
Ouais, je reste fidèle. Non, parce qu'il faut, des gens pour dénoncer tous ces trucs contre l'Afrique.
Alors, vous êtes un chanteur-prêcheur, un artiste engagé, et faire de la musique aujourd'hui, tout en éveillant les consciences, ça ne se fait plus trop, on peut le dire. Hein. Les beaux jours de la protest song, du rap militant, de la chanson à texte sont un peu dépassés, ils ont laissé la place à des musiques d'atmosphère, à des chansons d'évasion. Est-ce que vous avez l'impression d'être le rescapé d'une autre époque, Tiken Jafakoli?
Je pense que ouais, je suis un peu le rescapé d'une autre époque, parce que je sais que c'est pas facile. C'est pas facile ce que je vis, moi. Je vis beaucoup de trucs bizarres. C'est-à-dire que je peux remplir des stades, par exemple, en Afrique, mais les sponsors refusent de m'accompagner, de s'afficher. Avec
mon image. Vous faites rien pour leur plaire à ces sponsors Tiken Jafakoli en même temps. C'est...
Voilà, je pense que bon, ils s'autocensurent aussi. Hein, ils se disent voilà, il est engagé, il dit des choses contre le pouvoir. Donc si on est avec lui, le pouvoir va nous taper dessus. Donc je pense qu'ils sont dans ça.
Vous avez des moments de doute, parce que c'est vrai que vous remplissez les stades partout en Afrique, mais même en Europe. D'ailleurs, vous êtes en tournée en ce moment en France. Et en Europe, les gens qui viennent, ils viennent parce que votre musique est une musique reggae dansante qui leur permet de se retrouver dans de la bonne humeur, parce qu'ils dansent avec vous, ils reprennent vos refrains. Vous avez toujours l'impression que, au-delà de cette musique festive, vos engagements et donc vos propos vont être entendus, oui.
Ah oui, je pense qu'au-delà de la danse, moi, aujourd'hui, après le conseil, je reçois des gens de toutes les générations, voilà, des gens des enfants qui viennent me féliciter parce que grâce à mes textes ils savent des choses, des hommes âgés aussi qui viennent. Je pense que en ce qui concerne ma musique, je le dis modestement, mais les gens qui viennent me voir après, l'impression qu'ils me donnent, c'est qu'ils viennent pas que pour danser, mais ils viennent pour écouter le message. Donc voilà, ils viennent
aussi bien en Afrique qu'en Europe.
Oui, je pense. Je pense que en Afrique, on essaie de dire ce que les Africains ont envie de dire et qui n'ont pas la possibilité de dire. Ici, on est comme des porte-parole. On vient informer. Grâce à cette musique-là, on informe même les populations françaises sur le comportement, par exemple, du système français en Afrique ou du système occidental en Afrique. Et donc, beaucoup de personnes me disent que c'est grâce à ma musique qu'ils ont appris qu'il y avait la France-Afrique, qu'ils ont appris qu'il y avait tel problème, voilà, que grâce à ma musique, ils se sont intéressés à l'Afrique. Et moi, j'entends beaucoup de messages comme ça. Donc, moi, je dis que, en tout cas, le public qui vient à mes concerts, je ne parle pas des festivals, mais quand je joue en salle, ceux qui viennent pour Tikendja et qui sont fans, la plupart viennent pour danser, mais aussi pour écouter le message.
Vous viviez toujours à Bamako en tant qu'exilé ivoirien, Tikendja Fakoly ?
Je vis à Bamako, mais l'exil a pris fin en 2007. En 2007, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je peux aller en Côte d'Ivoire quand je veux, où je veux. Mais j'ai fait le choix de rester à Bamako.
Pourquoi ?
Parce que j'ai été super bien accueilli dans ce pays, donc au Mali, et bien intégré. Et puis moi, je suis un panafricaniste. Je me sens bien partout où on m'accueille bien. Donc je me sens malien
mais
aujourd'hui.
Mais une fois de plus, c'est une utopie du passé, le panaf, comme on disait à l'époque.
Ah non, nous on ne désespère pas, parce que de toute façon, aucun pays africain ne pourra s'en sortir tout seul. C'est les 54 pays africains ensemble qui vont peser dans la balance. Aujourd'hui, la Russie, elle a un poids parce que c'est un grand pays, parce qu'elle a une grande population, tout ça.
Quand vous voyez des pays aussi industrialisés que les pays européens qui ont du mal à s'entendre pour créer cet espace commun qu'est l'Europe, vous continuez, vous, à rêver
oui.
d'une Afrique unie ?
Ah oui, moi je rêve toujours d'une Afrique unie parce que, comme je le dis, aucun pays africain ne pourra s'en sortir seul, et même l'Europe. L'Europe... il faut absolument que les pays restent ensemble. Parce que la France, en face des États-Unis, les États-Unis, c'est 50 ou 52 États. Donc, en face de la seule France, la France ne vaut pas grand chose. L'Allemagne seule, voilà, c'est un pays puissant économiquement, tout ça. Mais je ne pense pas que c'est des pays qui vont faire le poids en face des États-Unis d'Amérique, ou bien en face de la Grande Chine, ou bien en face de la Russie. Donc, en ce qui concerne l'Afrique, c'est quand on sera ensemble, avec unis, avec une seule voix, et avec toutes nos matières premières, avec tout ce que nous apportons aujourd'hui au monde et qui n'est pas reconnu. Je pense que c'est quand on sera ensemble que les gens vont nous écouter. Vous savez, quand il y a des problèmes dans les pays africains, c'est la France qui décide au niveau du Conseil de sécurité. Exactement, donc on n'a même pas une voix. On n'a même pas de si l'Afrique avait des voix, si l'Afrique était écoutée. Je pense que tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans par rapport au terrorisme au Mali ou en Afrique de l'Ouest, on n'allait pas connaître, puisque si la Libye n'était pas désintégrée, on n'allait pas se trouver dans cette situation. Moi, je pense qu'on s'est retrouvé là parce que les pays occidentaux n'ont pas voulu écouter les Africains. Ils n'ont pas voulu écouter les Africains parce que voilà, ils regardent de haut un peu les pays africains quand ils sont seuls. Et moi, je suis convaincu que si les 54 pays sont ensemble dans 100 ans ou bien dans 50 ans, alors les gens seront obligés de nous écouter. Ils vont nous écouter parce que on a des matières premières dont ils ont besoin pour continuer leur développement. Rien que la Côte d'Ivoire produit 40% de la production mondiale de cacao, donc du chocolat. Le Ghana produit 20%. Le Nigeria produit 15%. Donc, quand vous ajoutez tout ça, ça fait 75% de la production mondiale de tous les chocolats qui sont dans le monde entier. Quand vous ajoutez les petites productions de pays comme la Guinée, qui produisent un peu, des pays forestiers un peu, qui produisent un peu, l'Afrique seule nourrit le monde entier en chocolat à presque 100%. Et ça, ce n'est que le chocolat.
Dans des agricultures industrielles que vous dénoncez d'ailleurs dans cet album Tikendja Fakoly. Cet album, Le Monde est Chaud, est d'abord un album qui alerte sur tous les enjeux environnementaux.
Oui, les thèmes sont très variés dans cet album. Mais j'ai mis l'accent sur
l'écologie.
D'ailleurs, il y a deux morceaux dans l'album. Il y a Le Monde est Chaud qui en parle, et puis il y a un titre à la fin qui s'appelle Écologie qui en parle, parce qu'il y a urgence. Il y a urgence. On voit aujourd'hui, souvent on s'attend au soleil, mais il fait froid. Souvent on se lève, on dit mais normalement il doit faire froid aujourd'hui, et bien le soleil est encore là, ça veut dire que la planète est très perturbée. Et je pense que si on veut réserver une autre planète à nos enfants et nos petits-enfants, qu'on aime, Je pense qu'il va falloir que chacun fasse quelque chose à son niveau et qu'on mette la pression sur les décideurs de ce monde, donc qu'ils respectent les engagements.
On va écouter justement votre chanson Tikan Jaffa Coli, Écologie.
Je consultais la mer, savoir pourquoi elle rejetait tout. Elle m'a dit, rien ne m'appartient, cela vient de chez vous. Je consultais les rivières, savoir pourquoi cette fat couleur. Elles m'ont dit, pas responsable de leur triste malheur. Elles m'ont dit que ce n'était pas le bon chemin, mais qu'elle n'y était pour rien. On vit au jour le jour, sans se soucier du lendemain. Je vais laisser quelque chose après moi. On construit à grands pas, sans savoir où l'on va. Namadunya bonya, amenande umakosa. Consulte le désert pour savoir ce qu'il en pensait. J'ai peur pour la nature, auriez-vous de bonnes nouvelles? Je consulte les étoiles, savoir si on ne s'est pas trompé. On a peur pour la nature, auriez-vous de bonnes nouvelles? Elles m'ont dit que ce n'était pas le bon chemin, mais qu'elle n'y était pour rien. On vit au jour le jour, sans se soucier du lendemain. Je vais laisser quelque chose après moi. On construit à grands pas, sans savoir où l'on va. Namadunya bonya.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et avec Tikan Jaffa Coli aujourd'hui en pleine tournée et avec un nouvel album très écolo, comme on l'a dit, Le Monde est chaud. Et cette chanson, Écologie en français, avec un refrain en langue bambara, vous dites quoi dans ce refrain, Tikan Jaffa Coli?
En bambara, j'ai dit respectons la nature, respectons le monde. Parce que si on ne respecte pas la nature, on va gâcher l'avenir de notre descendance. On va gâcher l'avenir de nos enfants. C'est ce que je dis dans
et
cette partie.
Et ce combat écologique que vous menez à partir de l'Afrique, à partir de Bamako, où vous avez décidé de vivre, Tikan Jaffa Coli, il se présente comment?
Mais c'est assez difficile en Afrique, puisque les gens ne sont pas sensibilisés, les gens ne sont pas informés. Donc on coupe les arbres, n'importe comment. On jette les sachets plastiques un peu partout. Après, le vent prend ça pour aller créer des nouveaux continents dans l'océan. Et donc, voilà, les gens sont pas sensibilisés. Ça fait pas partie, si tu voulais. Le respect de l'environnement ne fait pas partie de la priorité des dirigeants africains. Et donc, voilà, ça fait que, comme ça fait pas partie des priorités, donc ils sensibilisent pas. Et donc, les populations ne savent pas, et donc, on fait beaucoup de dégâts.
Parce que dans une autre chanson, pardon de vous avoir interrompu, vous militez pour le retour à une agriculture traditionnelle.
Ah oui, je pense que il y a un travail à faire à ce niveau. Hein, je milite, d'ailleurs, j'en fais. Hein, j'ai un petit terrain à 45 km de Bamako. Donc voilà, moi je cultive du maïs là-bas et à un moment je fais de la salade, en fait le potager. Et donc voilà, je milite pour ça. En 2013, je fais 50 hectares de riz dans mon petit village dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je veux montrer que l'agriculture est un métier très valeureux, hein, parce que tous ceux qui sont dans les grandes villes mangent. Et il y a beaucoup qui ne savent pas comment...
Une agriculture bio, comme on dit ici, dans nos pays.
Oui, c'est une agriculture bio, ouais.
Et donc c'est possible. Et au-delà de la musique, de vos propos dans vos chansons, Tiken Jafakoli, comment vous vous impliquez?
Ben moi j'essaie de joindre un peu l'acte à la parole ou l'acte à la chanson. Voilà. Voilà, quand je chante des choses, j'essaie de faire passer le message en posant des actes concrets. C'est ce que j'essaie de faire parce que toute la jeunesse africaine se barre aujourd'hui des petits villages. Moi, quand j'étais gamin, dans mon village du nord de la Côte d'Ivoire, j'avais 11, 12 ans, tous les week-ends, j'allais au champ. Et mon grand-oncle qui m'a élevé, il avait 3 épouses. Et chaque épouse avait son champ de tomates, oignons, en fait, tout ce qui va dans la sauce était cultivé par les femmes. Et puis, le riz, le mil, le maïs, ça c'était dans le champ de mon grand-oncle. Et donc, ce qui fait que on était 15 personnes dans la famille. Et je veux parler en ancien franc, parce qu'il donnait 2 francs. 2 francs comme popote. Et les 2 francs, c'était pour acheter du sel et acheter un peu de poisson séché pour mettre dans la sauce si on n'avait pas de viande.
Sinon, tout le reste... Et
tout le reste, c'était à la maison.
C'était à la maison, c'est ce que vous cultiviez.
C'est ce qu'on cultivait. Mais aujourd'hui, n'est pas étonnant de trouver dans les assiettes des Africains aujourd'hui du riz chinois, du poisson qui vient de la Chine, de l'huile qui vient de la Chine, en fait.
C'est la mondialisation.
Oui, c'est la mondialisation, mais si on a la possibilité de cultiver des choses chez nous, on n'a pas besoin de faire venir d'ailleurs. Ce côté-là est vraiment négligé par les gouvernants et les populations aussi.
Est-ce qu'il y a des militants écolos en Afrique?
C'est rare, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de partis écolos. Moi, j'en connais pas.
Il y a une prise de conscience chez la jeunesse, vous qui êtes le porte-étendard de cette jeunesse africaine?
Non, il n'y a pas de prise de conscience du tout au niveau de la protection de la nature. Bon, il y a des gens qui se battent pour faire des choses, mais voilà, il n'y a pas de parti politique qui se bat pour l'écologie. Voilà, les arbres sont abattus, les animaux sont tués, il y a plein de trucs comme ça. Je pense que il y a un gros travail à faire. Bien que l'Afrique soit victime d'une injustice, parce que les premiers pollueurs, c'est les pays occidentaux. Et donc, aujourd'hui, l'Afrique est en voie de développement. Donc, pour se développer, on a besoin d'usines, on a besoin de plein de choses qu'on ne peut plus utiliser. Je pense qu'il faut que l'Afrique doit chercher un autre moyen aujourd'hui.
Pour se développer.
Pour se développer. Un moyen plus écologique, plus propre, je veux dire. Et bien qu'il y a cette injustice-là, les Africains devraient jouer quand même leur rôle, puisque nous sommes sur la même planète que les pollueurs. Mais donc si la maison, elle se casse, alors on se casse, enfin, nous avec. Hein. Et donc c'est pourquoi, même au niveau de l'Afrique, des efforts doivent être faits.
Tiken Jafakoli, vous avez donc choisi de vivre au Mali. Donc, est-ce que c'est un choix politique ou c'est une manière aussi de dire que Paris, qui a été pendant très longtemps avec Londres, l'autre capitale des musiques du monde, a cessé de jouer ce rôle?
Non, pas du tout. Moi, j'ai fait le choix du Mali parce que je suis parti de la Côte d'Ivoire. J'ai fait le choix du Mali parce que je voulais absolument prouver que, voilà, il y a des pays africains qui sont stables et qui sont sur la voie de la démocratie. Et c'est pourquoi j'ai choisi le Mali. Effectivement, j'aurais pu aller à Londres ou venir à Paris ou au Canada en exil. Mais j'ai décidé d'aller dans un pays africain. Pour moi, c'était une manière de prouver que, voilà.
Vous installez en Jamaïque, ce pays qui compte vraiment pour vous. C'est là où vous avez enregistré la plupart de vos albums.
Exactement.
C'est la musique jamaïcaine qui vous a donné envie de vous lancer dans cette carrière de chanteur.
Effectivement, j'aurais pu aller en Jamaïque, mais j'ai décidé de rester au Mali. Et je pense que si j'étais pas allé au Mali, peut-être que j'allais choisir, en tout cas, un autre pays. Pour moi, c'était très important pour moi de prouver qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Mais il y a un autre pays africain qui est stable et où on peut vivre.
Et on peut composer de la musique.
On peut composer de la musique. Et puis, je pense que j'ai fait un bon choix parce que le Mali, c'est un pays de musique.
Et là, c'est ouvert à toutes sortes de musiques africaines, votre album, tout en restant reggae.
Ouais, ouais. Là, on a, il y a beaucoup d'instruments qu'on a mis, beaucoup d'instruments traditionnels. Je pense que voilà, il était temps de donner une identité au reggae africain. Voilà, nous on fera pas mieux le reggae que les Jamaïcains parce qu'ils l'ont créé, ils ont grandi avec ça. Mais nous on peut prouver que les Jamaïcains viennent d'Afrique à travers les instruments africains qu'on ajoute au reggae. Donc c'est ce que je fais.
Anoutena tabele, anoutena ta libibele. Anoutena tabele, anoutena ta fancibele. Siramani, la route n'est pas bonne. Mola maloya beye, soula maloya beye, yona maloya beye. La route n'est pas bonne. Yona maloya beye. La route n'est pas bonne. Anou tena tabele, anou tena ta libibele. Anou tena tabele, anou tena ta farancibele. Ngosira mani, la route n'est pas bonne. Mola maloya beye, soula maloya beye, yona maloya beye. La route n'est pas bonne. Anou tena tabele, anou tena ta libibele.
C'est la chanson que je préfère de votre dernier disque, Le Monde est chaud, qui vient de sortir, Tiken Jaffa Coli.
Merci.
Elle a pour titre Libya. Uh-huh. Elle garde pour moi tous ces mystères. Vous parlez de quoi dans cette chanson?
Je parle des images qui nous a tous choqués en Libye, lors de la traversée des migrants. Comment ils sont maltraités, ils sont traités comme des esclaves.
Par des vrais trafiquants. Ouais.
Voilà, par des vrais trafiquants. Et moi, j'ai vécu ça comme une humiliation. Après 400 ans d'esclavage, après tous les efforts faits aujourd'hui par des Noirs pour rehausser l'image. On a Barack Obama qui a franchi la porte de la Maison Blanche avec Michelle Obama qui est descendante d'esclaves. On a les Didier Drogba, les Kylian Mbappé, enfin tous ces grands joueurs football, tous ces footballeurs aujourd'hui qui font notre fierté et qui ont réussi à rehausser notre image. Et puis de l'autre côté, on a des frères qui, en voulant aller, je comprends qu'il y a des difficultés en Afrique, mais en voulant aller chercher le dollar, qui vient nous rabaisser finalement. Et donc, voilà, j'essaie de tirer sur la sonnette d'alarme, essayer de dire aux jeunes qui sont en Afrique que la route de la Libye n'est pas bonne, qu'ils ont le droit de partir s'ils veulent, mais que passer par la Libye, c'est passer par la voie de l'humiliation. Donc, quand un Africain est humilié, c'est toute l'Afrique qui est humiliée. Parce que si on voit un Africain attaché aujourd'hui comme un esclave, c'est toute l'Afrique qui se sent humiliée. Donc c'est ce message-là que je fais passer à travers Libya.
Vous avez travaillé entre autres avec Gaël Faye dans cet album Tiken Jaffa Coli.
Mm-hmm. J'ai travaillé avec Gaël Faye, mais avec Mike de Sensimilia aussi, avec Kiridine. Vous savez, moi je compose les chansons, mais j'utilise souvent des mots qui ne peuvent pas être compris ici. Et donc, voilà, effectivement, il m'arrive très souvent de faire appel à des gens pour venir renforcer le message, quelquefois un couplet, quelquefois une phrase, quelquefois tout un texte pour des chansons. L'objectif, c'est vraiment faire comprendre ce que je veux dire.
Et vous êtes en tournée, Tiken Jaffa Coli. Merci d'être passé dans le réveil culturel ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier album, Le Monde est chaud.
Ouais, merci.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Il n'y a pas de mystère, hein. Celui qui a son bac, c'est celui qui a travaillé.
France Culture passe le bac, Mathieu Garrigou-Lagrange.
3 œuvres et un rendu de copie cette semaine pour préparer le bac de français avec la compagnie des auteurs. Madame Bovary, Cyrano de Bergerac et Hernani, c'est pour le lundi, mardi et mercredi. Tandis que jeudi, nous corrigerons ensemble un commentaire de texte et une dissertation sur lesquels vous pouvez déjà vous entraîner en retrouvant les sujets sur nos réseaux sociaux.
La compagnie des auteurs à l'heure du bac, de lundi à jeudi à 15h et sur franceculture.fr. Chaque week-end sur France Culture, des histoires du réel pour raconter l'universel, une histoire particulière. Christine Bernard.
Du 7 juin au 7 juillet, Radio France est la radio officielle de la Coupe du Monde féminine de football. À cette occasion, une histoire particulière, Clémence Alzard et Anna Schmuck remontent le temps avec l'histoire de la toute première équipe de football féminin créée en 1912.
Si aujourd'hui j'ai cette santé, et c'est grâce à ça.
Féminin Sport, les pionnières du ballon rond. Ce samedi et ce dimanche à 13h30 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Face à l'impasse politique, les Israéliens retourneront voter une deuxième fois en 5 mois. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas réussi à former un gouvernement de coalition entre le camp laïque et le camp religieux de sa formation. Nous irons sur place dans un instant. Vous entendrez ensuite les excuses du patron de Boeing, ses premières excuses depuis les crashs de 2 avions de sa compagnie. Dans ce journal, nous nous pencherons aussi sur les négociations au Parlement européen. Les députés non affiliés sont convoités par les groupes parlementaires. Ils veulent grossir leur rang. Et puis, quelle politique face aux enfants de djihadistes retenus en Syrie ? Le défenseur des droits évoque un traitement inhumain et interpelle le gouvernement français. Nous nous intéresserons à cette possible prise en charge. Le Parlement israélien est donc dissous depuis hier par les députés eux-mêmes. Moins de 2 mois après les législatives, de nouvelles élections devraient être programmées pour la mi-septembre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a échoué à former une coalition et il sort de ces négociations sérieusement fragilisé, Étienne Monin.
Quand il entre dans la salle plénière de la Knesset, Benjamin Netanyahou ne cache ni sa nervosité ni sa contrariété. Il vient de perdre en quelque sorte les élections qu'il avait triomphalement remportées quelques 2 mois plus tôt. Il a échoué à constituer, comme il l'avait promis alors, une majorité stable de droite. Benjamin Netanyahou est fragilisé par cet échec. Il n'a pas vu arriver la menace. Il n'a pas réussi à trouver une porte de sortie. Il ne semble plus en mesure de faire voter à temps son parapluie légal pour se protéger des poursuites judiciaires qui vont le rattraper d'ici l'automne. Même s'il pourrait rester le favori de sa base électorale, il entraîne maintenant tous les Israéliens dans son besoin de garder le pouvoir. La dissolution de la Knesset n'était pas le seul chemin légal. Elle va coûter très cher et encore paralyser la vie politique pour 4 mois. On est loin de la stratégie mise sur pied par le Premier ministre en décembre dernier quand il décide de provoquer des élections anticipées pour échapper aux poursuites judiciaires.
3 sommets sont organisés dans le Golfe Persique en 2 jours, aujourd'hui et demain. L'Arabie Saoudite réunit les pays du Golfe, puis la Ligue Arabe autour d'elle. Une démonstration de force face à l'Iran qu'elle accuse indirectement d'avoir saboté 3 pétroliers et 1 cargo au large des Émirats Arabes Unis, c'était il y a 3 semaines. Tension au plus haut donc en ce moment. C'est la première fois qu'il prenait la parole depuis le mois de mars. Le PDG de Boeing s'est exprimé hier sur la chaîne américaine CBS. Après les accidents des Boeing 737 Max d'Ethiopian Airlines et de Lion Air qui avaient tué 346 personnes, Dennis Muilenburg a reconnu hier des erreurs dans le déploiement du signal d'alerte. Il était censé, ce signal, avertir des dysfonctionnements du système anti-décrochage des avions. Dennis Muilenburg s'est donc excusé.
Je présente personnellement mes excuses aux familles. Nous sommes terriblement désolés de ces 2 accidents. Encore une fois, nous sommes désolés pour ceux qui ont perdu un proche. Nous porterons toujours cela en nous. En tant que dirigeant de cette entreprise, cela m'affecte personnellement. Malheureusement, je ne peux pas changer ce qui est arrivé. Mais si je le pouvais, je le ferais. L'engagement que je prends, c'est que Boeing va faire tout son possible pour s'assurer de la sécurité de nos avions.
C'était le patron de Boeing, traduit par notre correspondant outre-Atlantique, Grégory Phillips. Parallèlement à la course à la présidence de la Commission européenne, un autre grand marchandage a lieu en ce moment, et ce depuis dimanche, depuis les élections. Beaucoup plus discret, celui-là, dans les couloirs du Parlement, c'est la chasse aux eurodéputés nouvellement élus, ceux qui n'ont pas encore de groupe attitré, car la taille des futures formations est importante au Parlement, Marie-Pierre Véraud.
Le temps de parole, l'ordre des prises de parole, notamment lorsqu'un chef d'État est invité, les postes importants, la qualité des commissions, sans oublier les moyens techniques et financiers, tout cela dépend du nombre d'eurodéputés, d'où la chasse à ceux qui n'ont pas encore rejoint un groupe, bien sûr en toute discrétion, comme l'explique Elisabeth Morin-Chartier, eurodéputée sortante.
Ça se passe de façon extrêmement discrète, plutôt en tête-à-tête, plutôt avec deux tasses de café de part et d'autre de la table, et très souvent c'est au bar Mickey à côté de l'hémicycle que ces choses-là se préparent. Il faut savoir observer, il faut savoir qui parle à qui, qu'est-ce qui est en train de se préparer.
Important pour les grandes formations, leur ralliement peut être vital pour les plus petites, car pour constituer un groupe, il faut rassembler au moins 25 députés issus de 7 pays différents. On va donc parfois courtiser un eurodéputé qui apportera la nationalité manquante. C'est alors moins une question de nombre que de critères. En 2014, cette règle des 7 pays avait ainsi empêché Marine Le Pen de constituer un groupe pendant plus d'un an, et elle parlait toujours en dernier. Ceux qui ont gagné dimanche en France n'ont donc pas forcément encore gagné en Europe. De même, des groupes pourraient se dégonfler demain. Si les Britanniques quittent l'Union, les centristes perdraient ainsi les Lib Dems. Nécessaire enfin, la taille n'est pas suffisante pour peser, car au Parlement européen, il n'y a pas de discipline de vote. Les eurodéputés peuvent voter selon des lignes nationales, faisant fi de celles de leur propre groupe. À l'heure du vote, on perd forcément des voix dans ses propres rangs. Il faut donc être à même d'élargir sa base, de bâtir des compromis, de rallier 3 voire 4 formations pour l'emporter. Quelle que soit sa taille, nul n'est donc tout seul faiseur de roi à Strasbourg.
Marie-Pierre Véraud pour France Culture. Un procès équitable, selon le ministre français des Affaires étrangères, les 7 Français condamnés à mort en Irak pour leur appartenance au groupe État islamique ont bénéficié d'un procès équitable. Jean-Yves Le Drian l'a dit hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, alors que les avocats des familles de ces djihadistes dénoncent une justice expéditive en Irak, ils réclament leur jugement en France. Et leurs enfants, que deviendront-ils? Ils sont certains à être retenus en ce moment dans des camps en Syrie. Hier, le défenseur des droits a appelé la France à faire cesser les traitements inhumains contre ces enfants. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, elle, a écrit au gouvernement français pour lui demander de rapatrier sans condition tous ces enfants. Mais le gouvernement s'y refuse pour le moment et rapatrie au cas par cas. Ainsi, 6 mineurs sont revenus de Syrie en mars dernier et sans le moindre souci, affirme Marie Derain. Elle est secrétaire générale du Conseil national de la protection de l'enfance.
La plupart de ces enfants, ils arrivent par Roissy Charles de Gaulle quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont accueillis par le département dans lequel ils arrivent, c'est-à-dire principalement la Seine-Saint-Denis. Et là, s'organise ce qui classiquement se met en place en protection de l'enfance, une évaluation de la situation, la réalité de ce qu'ils ont vécu. Il y a évidemment un sujet pour les adolescents qui est leur éventuelle participation à des actes terroristes aussi. Et à ce moment-là, on est dans une évaluation qui ressemble davantage à une évaluation sur les ressorts des enfants guerriers, un protocole aussi autour de la santé, et notamment pour les tout-petits. On s'est aperçu très vite, dès 2016, que c'était des enfants qui étaient très souvent en sous-développement, malnutris, avec des maladies liées à des problèmes d'hygiène. Et puis, ils sont ensuite accueillis le plus souvent dans des familles d'accueil, le temps de faire une évaluation pour vérifier quelles conditions d'accueil potentielles dans la famille de ces enfants est envisageable, ou sinon pour organiser un accueil en protection de l'enfance durablement.
Des propos recueillis par Léa Gedge. Plus de 8 milliards et demi de litres d'eau sont consommés chaque année en France dans des bouteilles vendues par exemple en supermarché. Un chiffre qui donne le vertige surtout aux défenseurs de l'écologie. À Paris, la mairie veut ainsi inciter les habitants de la capitale à réduire cette consommation et privilégier l'eau du robinet. L'idée est de devenir la première ville zéro déchet. Explication d'Emmanuel Calafiore.
La mairie de Paris encourage ses habitants à arrêter d'acheter de l'eau en bouteille. En effet, celle du robinet et des fontaines de la ville est de très bonne qualité. Le projet du Paris de l'eau est résumé par Célia Bloel, adjointe à la mairie.
Inciter les Parisiens à boire l'eau du robinet. L'eau du robinet, c'est aussi celle qui coule aux 1200 fontaines que vous trouvez dans Paris. Abandonner définitivement le plastique et à adopter la gourde. Et puis, c'est aussi que les Parisiens fassent attention à leur comportement et pourquoi pas deviennent ambassadeurs de cette action.
Paris, première ville zéro déchet plastique, forcément les grands groupes agroalimentaires vont perdre des clients. Mais Benjamin Gestin, directeur général d'Eau de Paris, ne voit pas d'autre issue possible.
On n'est pas très loin du moment où les consommateurs vont simplement dire non à la bouteille en plastique. J'espère simplement que ces grands acteurs, qui aujourd'hui fonctionnent selon un modèle, vont nous suivre dans une démarche de limitation ou suppression des déchets plastiques.
À la place des bouteilles, des gourdes réutilisables, elles sont en plastique végétal. Membre de l'association Surfrider pour la protection et la sauvegarde des océans, Diane valide ce type de plastique recyclable.
L'idée, c'est vraiment de réduire en tout cas tout ce plastique inutile, ce plastique à usage unique, se concentrer sur une production de plastique qui peut être réutilisable, durable. L'objectif, c'est qu'il n'y ait aucun plastique qui se retrouve dans l'environnement.
Il ne reste plus qu'à remplir la gourde dans l'un des 1200 points d'eau de la ville. Pour les retrouver, il suffit de télécharger le plan des fontaines de Paris.
Et notez qu'une campagne Paris de l'eau sera lancée ce week-end. Plus de 50 000 gourdes seront distribuées gratuitement. La pluie va quitter le nord de l'Hexagone petit à petit ce jeudi pour laisser place à de belles éclaircies de la Bretagne à l'Alsace, mais pas avant la fin d'après-midi. Ailleurs, le soleil se fera une place dès ce matin pour débuter un long week-end de l'Ascension, largement ensoleillé et surtout très chaud. Ce matin, comptez déjà 16 degrés à Lille et Rennes, 17 à Paris, 18 à Strasbourg et Bordeaux, 22 degrés à Marseille ce matin. Et ce week-end de l'Ascension, justement, vous en parlez, Jacques, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Dans votre journal des idées à 6h40 sur France Culture, vous revenez en tout cas sur cette fête chrétienne de l'Ascension qui célèbre la montée au ciel de Jésus après sa résurrection. C'est aussi sa dernière rencontre avec les apôtres et Marie, sa mère, était présente.
Eh oui, les actes des apôtres la décrivent en prière avec les disciples juste après l'événement. Bien qu'elle ait suscité une foisonnante tradition littéraire, mystique et iconographique, la présence de la Vierge Marie dans les évangiles est plutôt rare et ses propos encore davantage. Elle gardait toutes ses paroles et y réfléchissait dans son cœur, nous dit Luc. Dans un livre publié chez Bayard sous le titre « Marie, une vie au-delà des siècles », Carlo Ossola évoque, pour décrire ses interventions, une sobriété mesurée et forte. Par exemple, aux noces de Cana, elle se contente de dire à son fils « Ils n'ont plus de vin ». Mais ce faisant, elle rend par son autorité naturelle le miracle urgent et irrécusable. Ou quand elle cherche, avec une appréhension irritée, son jeune fils qui s'était perdu parmi les docteurs du temple, c'est la figure de la mère dans toute sa vigoureuse présence qui s'affiche. Avant que la tradition mariale ne porte sa voix comme une Bible abrégée, sa parole dans les évangiles, contrairement à celle du Christ qui singularise, identifie, interpelle un à un, cette voix est la voix de tous, comme l'a souligné Jean Starobinski. C'est sans doute pourquoi, si l'année chrétienne est scandée par les moments saillants de la vie du Christ, le rythme mensuel de la vie du chrétien est plutôt scandé par les fêtes mariales, en particulier dans la tradition orthodoxe et ailleurs, par la dévotion du rosaire, le mois marial, les sanctuaires et les cultes dédiés. Carlo Ossola, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de littérature moderne de l'Europe néo-latine, parcourt en esthète de la foi les mille et un chemins de cette dévotion, depuis les auteurs apocryphes et les apologètes comme Ephrem le Syrien, et de Dante ou Montaigne à Léopardi, Léon Blois, Rilke ou Max Jacob, pour y retracer le cours de la mémoire collective qui vit de ces moments profonds dont la littérature constitue souvent les rides en surface. Un seul murmure ininterrompu d'une humanité pauvre et qui ne voudrait pas l'être, car c'est une figure d'intercession que Marie représente à tout jamais. Dès les hymnes aux vers palpitants d'Ephrem le Syrien, qui ramène le mystère de l'incarnation à l'humanité de Marie, à ses réticences et à ses inquiétudes de femme, à la conscience de signes d'union et de contradiction, de miracles et de scandales, de respect de la loi et de la nouveauté salvatrice qu'elle porte dans son ventre. Une figure de médiatrice célébrée par Huysmans comme le Havre des pleurs misères, Marie des compatissances, mère des pitiés. Spécialiste de Dante, Carlo Ossola rappelle l'importance de la figure de Marie dans la Divine Comédie. Je cite « Vierge Mère, fille de ton Fils, humble et haute, plus que créature, terme fixé d'un éternel décret, tu es celle qui a tant anobli notre nature humaine que son Créateur daigna se faire sa créature. » La densité de cette juxtaposition de paradoxes en résume d'autres fondamentaux dans la théologie chrétienne, trois en un, Dieu et homme, passion et gloire, mort et résurrection. Le poème du Florentin s'achève par le retour au temps humain. Au pèlerin de l'éternité revient alors le souvenir d'une bataille et d'une disparition assortie d'un message. Je finis dans le nom de Marie. C'est ainsi que Dante achève son périple et retour à Mont, lui aussi dans le nom de Marie. La tradition iconographique a illustré de nombreux moments de la vie de Marie, l'Annonciation, la Nativité, la fuite en Égypte, la crucifixion et la déposition, la Dormition. Mais l'épisode le plus personnel et incarné est sans doute la Visitation. Il est rapporté par l'Évangile de Luc, mais aussi dans le Protévangile de Jacques, un apocryphe. Il évoque la visite que fait Marie quelques jours après l'Annonciation à sa cousine Élisabeth, elle-même enceinte du futur Jean-Baptiste, malgré son grand âge et en vertu également d'une grâce divine. Les deux femmes partagent cette condition d'avoir été élues par Dieu lui-même pour porter l'une un prophète et l'autre sa propre incarnation. La scène, généralement représentée, est celle d'une embrassade avec le geste d'Élisabeth qui touche le ventre de Marie. L'embrassade, qui se dit en grec d'un mot qui désigne aussi une forme particulière de dévotion aux icônes, aspasmos, a en l'occurrence une signification symbolique. En reconnaissant Marie comme mère de Dieu, Élisabeth, la femme du prêtre Zacharie, décide du même coup de la reconnaissance de la nouvelle alliance par l'ancienne et du christianisme par le judaïsme. Du point de vue iconographique, la représentation du fœtus est celle d'un modèle réduit d'enfant qui apparaît en transparence ou serti dans une mandorle à l'endroit du ventre maternel. Enfant et Dieu restent un mystère, même dépeint par artifice, et l'on devra se contenter longtemps de cette image pour l'admettre. Reste le son dont parle le Tasse quand est dit le nom de Marie dans les cloîtres étoilés. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous, je m'en mêle avec mon casque.
Oui, oui, faites attention au micro. Alors, au sommaire aujourd'hui, Xavier, au sommaire des enjeux, le dialogue sur le Venezuela en Norvège.
C'est ça, des négociations sur l'avenir politique du Venezuela à Oslo. Depuis mardi, les délégations du gouvernement de Nicolas Maduro et de l'opposition de Juan Guaido sont réunies par la Norvège qui s'est chargée de faire l'intermédiaire. C'est la première tentative de négociations officielles depuis un an et demi, alors que la crise économique et politique a atteint une sorte de paroxysme. Alors, est-ce la meilleure chance pour une sortie de crise? On voit ça avec vous, Paula Vasquez. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes anthropologue spécialiste du Venezuela, chargé de recherche CNRS et au CRESPA de Paris 8, auteur dernièrement de Venezuela, un pays hors service de l'utopie au chaos, c'est chez Buchet-Chastel. Alors, ce premier dialogue après quatre mois de confrontation intense dans la rue et dans les chancelleries entre Nicolas Maduro et Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale qui s'est autoproclamé président le 23 janvier. Il y a un mois exactement, Guaido tentait de rallier l'armée dans Caracas pour renverser le régime chaviste. C'était un peu un pic de ce point de vue-là. Ces négociations, c'est un apaisement quand même.
C'est surtout la reprise de se prendre la main sur les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les prochaines élections ou les élections qui vont permettre au Venezuela de sortir de la crise. Car c'est dans les conditions de réalisation des élections où ça se joue. Disons que cette tentative du 30 avril, c'était essayer encore une fois de fracturer les forces armées vénézuéliennes, mais ça aura pas lieu. En tout cas, cette question de compter sur des défections, c'est irréel. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les régimes de Maduro. Donc, il faut maintenant, ce sont des négociations qui ont surtout à voir avec les créanciers du Venezuela, car il faut refinancer les dettes, payer des intérêts et faire toute une série de choses liées à l'industrie pétrolière et à la production de pétrole vénézuélienne. Donc les élections portent un énorme enjeu politique et c'est la survie même des hauts fonctionnaires du régime de Maduro qui est en train de se jouer de tout point de vue.
Oui, et avec un objectif, on le comprend quand même, dans le temps qui serait assez limité, c'est-à-dire arriver à ces fameuses élections parlementaire peut-être dans le courant de l'année. On va y revenir simplement sur le contenu des négociations. Qu'est-ce qu'on peut en savoir? Il y a eu des déclarations assez laconiques de tout le monde, notamment le ministre des Affaires étrangères de Norvège qui dit les deux parties veulent avancer sur, je cite, des questions politiques, économiques et électorales. On sait qu'il y a des pressions des États-Unis par ailleurs pour le départ de Nicolas Maduro. Mais de quoi on discute?
Mais disons qu'à l'interne, Maduro n'a pas arrêté son agenda d'attaquer systématiquement l'Assemblée nationale. Donc, on sait, c'est-à-dire qu'il faut voir ça comme une sorte de guerre dans plusieurs fronts. Les fronts à l'interne, il est extrêmement tendu et la répression est énorme. Et à l'externe, donc, dans ces négociations-là, c'est justement la possibilité de réaliser de dépouiller les registres électoraux pour que tous les Vénézuéliens puissent voter. On sait bien que cette diaspora, elle est décisive dans la mesure où elle va voter plutôt pour la sortie de Maduro. Et ça, c'est quelque chose de crucial. Comment dirais-je, c'est comme des doubles masques, des doubles jeux, car à l'interne, la répression contre cette opposition politique, elle est énorme. Il y a 80 députés dont l'immunité parlementaire ont été levée et l'objectif, c'est anéantir cette assemblée-là. C'est pour ça que Maduro parlait des élections législatives. C'est pas les législatives qui sont en jeu, c'est lui surtout. Donc, il faut voir là, comme beaucoup des fumées, ça c'est une stratégie, cette question des élections législatives, elle n'a pas sur l'agenda, parce que la question, c'est les régimes politiques qui contrôlent l'exécutif, la constituante et le tribunal suprême de justice.
Oui, sachant que, je rappelle, il y a une assemblée nationale élue en 2017 qui est invalidée par l'assemblée nationale constituante et qui, pour ainsi dire, cette assemblée nationale constituante gouverne avec la Cour suprême et le gouvernement. Juste sur le panel des négociateurs, il y a plusieurs noms qui sortent, notamment beaucoup de proches du gouvernement, enfin, et membres du gouvernement de Maduro, Jorge Areaza, ministre des Affaires étrangères, Jorge Rodriguez, ministre de la Communication, et Héctor Rodriguez, gouverneur de l'État de Miranda. Qui sont ces personnes et qu'est-ce que ça indique? Et
il n'y a pas de lien de parenté entre les deux Rodriguez. Jorge Rodriguez, c'est le frère de Delcy Rodriguez. Ce sont des gens qui viennent de la gauche, de la vice-présidente, exactement. Et en fait, ce sont des gens qui viennent des secteurs les plus fidèles au chavisme, mais assez jeunes, disons, dans cette configuration-là de pouvoir, des cercles restreints du pouvoir. Voilà les mots que j'ai cherchés. Et ce sont des gens extrêmement radicaux ils gèrent la communication. Jorge Rodriguez, c'est surtout un communicant politique. Et c'est lui qui a fait du mal et que la Norvège a dû lui dire un peu de se taire lors des premières négociations parce qu'il est rentré tout de suite en disant qu'ils avaient négocié des choses et tout ça pour affaiblir Guaido. Et Arrea, ça c'est le ministre des Affaires étrangères, il a un lien familial avec Chavez, c'est le mari de l'une de ses filles. Et donc là, on est dans les noyaux durs. Et Héctor Rodriguez, c'est le gouverneur de Miranda, il est assez jeune et c'est aussi, disons, un bolivarien extrêmement convaincu et fort. C'est des hommes formés. Surtout, ce qu'il faut voir là, que ce sont trois civils. Pourquoi? Parce que les secteurs militaires ne souhaitent pas une crise militaire. C'est-à-dire, c'était pas Padrino López ou le ministre de la Défense qu'on peut envoyer, mais ce sont plutôt des civils qui ont un verbe extrêmement radical, mais qu'en même temps vont devoir céder devant des exigences pour sortir la situation économique du chaos dans lequel elle se trouve.
Et alors, précisément, ils sont là pour négocier quoi, à votre avis? Donc, cette question des élections législatives, mais qui, on le comprend, serait peut-être une manière de gagner du temps ou réellement répondre à des demandes plus pressantes sur des questions comme délicates, comme la destitution éventuelle de Maduro.
C'est les noyaux durs, c'est l'attribution des responsabilités de la crise actuelle. C'est-à-dire, si la crise actuelle économique, on a publié justement les chiffres de la Banque centrale.
Pour la première fois depuis trois ans,
ça c'est dire il faut remettre les choses à plat, attribuer des responsabilités et trouver donc tous les arguments politiques nécessaires pour avancer et pour faire ces élections qui sont de l'ordre de l'extraordinaire. Et là, justement, il faut voir tous les engagements qu'il y a au sein du chavisme, parce que c'est un gouvernement qui s'est engagé dans beaucoup de fronts et que maintenant il ne peut plus les maintenir en termes économiques avec la livraison de pétrole pour Cuba, la livraison de pétrole pour la Chine et à l'interne la situation vénézuélienne qui est désespérée. Et tout de suite, et Maduro hier a fait des communiqués en disant qu'il fallait relancer l'économie, etc. C'est-à-dire qu'ils sortent du déni de la crise actuelle humanitaire, sociale et profonde, sanitaire qui affecte les Vénézuéliens. Ils sortent du déni. Et à mon avis, sortir de ces dénis-là, ça veut dire que la pression, elle est énorme parce que pour sortir d'une crise, il faut d'abord la reconnaître.
Oui, puisqu'effectivement, il y avait ces chiffres donc, de la Banque centrale du Venezuela hier qui expliquent qu'entre 2013 et 2018, le PIB du Venezuela s'est contracté pratiquement de moitié. Donc effectivement, avant les sanctions américaines, comme vous le dites, c'est important. Ce qui veut dire que du côté du régime Maduro, principalement, c'est qu'il est acculé sur le plan économique. C'est ça qui le force à bouger, plus que les pressions diplomatiques, plus que les pressions sur son ambassade à Washington, plus que les demandes insistantes ou le rapprochement qu'on a vu entre, par exemple, les États-Unis et la Russie sur la question du Venezuela.
Tout à fait, parce que c'est disons qu'il n'y a pas de gestion publique dans ce pays. Il n'y a pas de gouvernement, il ne gouverne pas. Donc là, il faut gouverner pour mettre en place les mesures nécessaires pour octroyer des nouveaux prêts, pour pouvoir les investir, les dépenser et sortir le Venezuela de cette situation économique-là. Bah, il faut céder parce que les choses telles qu'elles sont, elles ne marchent pas et les détournements de fonds continuent. Il y a une crise qui s'avoisine. Là, c'est celle alimentaire avec l'histoire des cartons de nourriture distribués aux classes les plus populaires qui commencent à manquer. Et là, c'est un cran de plus sur une situation des vulnérabilités alimentaires énormes. Et c'est une crise qui s'avoisine là. Donc, c'est une pression économique pour sortir. Surtout, c'est une pression économique et sociale à l'interne qui est extrêmement forte.
Et pénurie alimentaire qui s'ajoute aux pénuries de carburant, aux pénuries de médicaments, 85% manque. Une question, peut-être la dernière, sur l'attitude quand même de Juan Guaido, qui a dû quand même défendre sa position face à ses partisans. Il a dit à ceux qui ne comprennent pas que nous devons jouer sur tous les tableaux, que nous devons avoir une présence active partout, coopère avec l'autre partie, c'est quand même assez fort. Pourquoi est-ce qu'il a dû prendre cette position aussi ferme vis-à-vis pourtant de ses alliés? On ne veut pas qu'il négocie.
Guaido parle d'une médiation, car prononcer les mots négociation veut dire céder vis-à-vis du gouvernement de Maduro et la population vénézuélienne est vraiment derrière lui pour faire sortir Maduro au pouvoir. Et toutes ces nuances-là propre d'un jeu d'une caste militaire qui a d'une certaine manière pris complètement les contrôles du pays comme une sorte de kidnapping politique. Si on dit qu'on négocie, ça veut dire céder. Et ça, c'est quelque chose que l'opinion publique vénézuélienne a vraiment du mal à entendre étant donné la situation actuelle. Donc il faut voir un discours à l'interne pour son électorat à venir, celui de Guaido, et un discours à l'externe dans une table des négociations. C'est-à-dire il faut que Guaido garde malgré tout son leadership et il peut pas dire qu'on négocie mais qu'on va pas céder et que mais les conditions après concrètes sont pas on peut pas pas tout le monde peut être au courant de ce qu'on est en train de négocier
donc
en Norvège.
Il garde son leadership politique et est-ce qu'il garde son soutien populaire parce qu'on a vu des manifestations beaucoup moins nourries comme à peu près 2000 personnes il y a 15 jours dans l'est de Caracas, c'est beaucoup moins que les dizaines centaines de milliers qu'on avait vu auparavant.
Tout à fait. Ben, là, il y a deux choses. Un, la répression politique, elle est extrêmement forte, réalisée par les corps des renseignements, c'est les SEBIN, qui mènent une répression énorme. C'est une répression différente à celle de la rue. C'est qu'on va chercher les gens chez eux, liés aux activités politiques de l'opposition. Ça, c'est une chose. Il y a des gens qui ont quitté le pays dans des conditions terribles, des persécutions. Il y a une persécution politique, plus les prisonniers politiques. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que ce n'est pas dans la rue où les choses sont en train de se jouer maintenant. On ne peut pas exiger à la population vénézuélienne, en plus de sortir manifester dans les conditions dans lesquelles il se trouve actuellement. C'est les conditions de réalisation des élections. Et là, les soutiens populaires ou pas soutiens populaires, on les verra les jours des élections. C'est pas dans les manifestations des rues où on peut évaluer la force de l'opposition vénézuélienne en ce moment.
Eh ben, à suivre la situation sur les deux plans, au moins les négociations à Oslo. Et puis, il n'y a pas eu d'accord. Donc, notre chance à l'heure actuelle est de rester dans la rue, dit quand même Guaido. Mmh. On verra ça aussi. Merci beaucoup pour vos explications, Paola Vasquez, anthropologue, je rappelle, auteur de Venezuela, de l'utopie au chaos, pays hors service, chez Buchet-Chastel. Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
La maîtrise de Radio France s'associe à la maîtrise Notre-Dame de Paris pour un concert exceptionnel. Cette soirée, initialement prévue dans la cathédrale, sera donnée le mardi 4 juin à 20h à l'auditorium de Radio France. Elgar, Purcell, Tippett, Handel. Un voyage en terre anglaise avec Yves Castagnier à l'orgue, Sophie Janin et Henri Chalet à la direction. Entrez au cœur du concert. Renseignements et réservations, maisondelaradio.fr.
Chaque jour à midi, La Grande Table par Olivia Gesbert.
Toute l'actualité de la culture et des idées, à l'heure du déjeuner, des rencontres plaisir, des livres coup de cœur, des penseurs positifs et d'autres qui nous alertent. Je vous attends en direct ou en podcast sur franceculture.fr.
Ce jeudi, dans La Grande Table, idées. Pourquoi l'homme n'est-il pas un animal comme un autre ? Invité Alain Prochian, neurobiologiste, pour « Singe toi-même ». Voyage dans l'histoire de l'évolution, ce qui a fait la spécificité du cerveau humain et la responsabilité de l'homme vis-à-vis du vivant. La Grande Table, ce jeudi dès midi et sur franceculture.fr.
Et sur France Culture, il est 6h59, c'est l'heure des matins avec aujourd'hui Florian Delorme. Bonjour Florian.
Bonjour Xavier Martinet. Nous allons poursuivre l'analyse du scrutin européen de dimanche dernier en s'intéressant plus particulièrement ce matin à la gauche. Le message, c'est que la gauche existe encore dans ce pays, lançait Raphaël Glucksmann au lendemain de l'élection. Mais si la gauche existe effectivement encore, elle semble affaiblie et incapable de rivaliser avec le Rassemblement National et la liste centriste de La République En Marche. Seuls les écologistes ont su tirer leur épingle du jeu. Alors pourquoi la gauche n'a pas su peser dans cette élection européenne? Pourquoi cette gauche française est-elle aussi émiettée? Et peut-elle encore se reconstruire? Comment autour de quelles valeurs, quels programmes, quels idéaux? On recevra tout à l'heure à 7h40 Michel Vinocq, qui est historien, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris, un spécialiste de l'histoire politique et intellectuelle française. Il vient de diriger un ouvrage collectif, Les figures de proue de la gauche depuis 1789, qui est paru chez Perrin. On verra avec lui toutes ces questions. Ce sera à partir de 7h40. Pour l'heure, il est 7h. Bienvenue à tous.